Et on retrouve Olivier Beauregard pour parler sport. Olivier, bonjour.
Salut.
J'allais dire qu'on va regarder avec lui ce qui a marqué la dernière semaine dans le monde du sport. J'ai goût de dire les dernières heures, la dernière journée, parce qu'on commence en parlant de Pierre Dorion là, chez les Sénateurs d'Ottawa.
Oui, absolument. Le directeur général des Sénateurs d'Ottawa, bien, je devrais dire l'ex-directeur général des Sénateurs d'Ottawa, puisqu'il a été congédié dans les dernières heures. Ça a été une nouvelle qui a été annoncée hier et on a décidé en pleine journée hier d'appeler un point de presse à 15h15. Pour les gens, là, moi j'ai été sur le beat des Sénateurs pendant quelques saisons, puis généralement, quand on annonce un point de presse à 15h, dépasser 15h, c'est jamais bon signe. Je me rappelle de la transaction d'Eric Carlson. Je me rappelle de la transaction de Mark Stone. Écoutez, je me rappelle de toutes ces dates-là qui étaient toujours après des 15h. Au niveau des conférences de presse. Hier, soyons honnêtes avec ce qui s'est passé dans les dernières heures chez les Sénateurs, c'est-à-dire la perte d'un choix de première ronde pour un dossier qui n'avait pas été réglé avec un ancien joueur, et également la suspension de 41 matchs, je vous en ai parlé la semaine dernière, de Shane Pinto. On dirait que ça a comme monté un peu la pression chez les Sénateurs d'Ottawa, puis on a décidé qu'hier, il y avait des gens qui avaient des comptes à régler, et c'est ce qu'on a fait. On a décidé de congédier le directeur général Pierre Dorion. Pierre Dorion, là, il a travaillé tellement, mais tellement longtemps au sein des Sénateurs d'Ottawa. Il faisait partie de l'organisation depuis la saison 2007-2008. Il avait été engagé comme dépisteur. Il est tombé dépisteur-chef par la suite. Puis, soyons honnêtes, il a fait un travail excellent. Là. Aujourd'hui, on parle de Team Stouzla, là, mais à l'époque, il y a eu Eric Carlson, qui est un petit défenseur de 100 quelques livres. Et Pierre Dorion a réussi à convaincre l'organisation des Sénateurs de le repêcher. Puis aujourd'hui, c'est un défenseur étoile qui a remporté le Norris dans la Ligue nationale de hockey. Donc, Pierre Dorion a fait un travail exceptionnel. Il est devenu directeur général adjoint à Brian Murray. Et lorsque Brian Murray est tombé malade, c'est là que Pierre Dorion a eu sa chance de devenir directeur général, poste qu'il a occupé depuis la saison 2016. Et pas plus tard que l'année suivante, l'équipe était en finale de l'Est contre les Penguins de Pittsburgh, etc. Donc, tout ça pour dire que Dorion a fait un travail plus connaître, mais au final, on n'a jamais été capable, après ça, de concrétiser. Que ce soit des concrétisations au niveau des contrats, de garder des joueurs d'impact longtemps au sein de cette organisation-là, ça semblait toujours compliqué. Même si Brady Tkachuk, en ce moment, est un sénateur pour plusieurs années, ça a été difficile, rappelez-vous, il n'a pas commencé la saison avec l'équipe, il a fallu qu'il y ait des discussions à l'extérieur. À chaque fois, les dossiers à Ottawa semblaient toujours plus compliqués qu'un peu plus partout ailleurs dans la Ligue nationale. Alors hier, Michael Andlauer, le nouveau propriétaire des Sénateurs, a fait un point de presse, a décidé que c'était terminé pour Pierre Dorion. Et écoute, il a été sévère là, dans ses propos. Je sais pas si tu as un peu entendu ou lu ce qui s'est dit, Sébastien, mais lors de sa conférence de presse, il a blâmé Pierre Dorion pour la perte du choix de première ronde en raison de sa mauvaise gestion dans la clause de non-mouvement d'Evgeny Dadonov. Il a également critiqué la suspension de Shane Pinto et les défaites qui se sont enchaînées chez les Sénateurs. Écoute, il a été très ouvert. Ça, on peut pas y reprocher. Là, ça a été le gars qui a été le plus transparent possible, mais ça reste que ça crée un certain malaise pour les journalistes présents en disant « OK, Andlauer, visiblement, n'a pas terminé sa relation avec Pierre Dorion à bon terme, même si lui semble dire le contraire. Mm-hmm. » Par la suite, on a dit que Steve Staios, qui vient tout juste d'être engagé, qui est l'ami d'Andlauer, deviendrait directeur général par intérim, lui qui occupe les postes de fonction de président là, des opérations hockey, lui va devenir DG par intérim. C'est lui qui va avoir la lourde tâche d'engager le prochain directeur général, mais c'est aussi lui qui devra continuer à travailler avec DJ Smith et Jack Capuano, ces deux entraîneurs, parce qu'on a donné un vote de confiance. Et ça, je suis surpris de me dire, moi, je pensais qu'on allait faire le ménage au grand complet. Mais soyez pas inquiets, là. Pour ceux et celles qui sont pas des grands partisans de DJ Smith, moi, j'ai comme l'impression que c'est une question de temps avant que lui aussi, malheureusement pour lui, perde son emploi.
C'est comme si le propriétaire mettait, tu sais, il s'est passé des choses, puis c'est correct, mais qu'il en profitait pour mettre l'équipe à son image, à sa couleur, là, dans le fond.
Ça, c'est son droit, il investit c'est gros sous là-dedans. Mais reste que Pierre Dorion, ce qui s'est passé dans les dernières heures, tu sais, le truc de clause de non-mouvement, la situation du contrat d'Evgeny Dadonov, c'est une catastrophe. Là. Perdre un choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey, ça représente des millions de dollars. Là. Des millions et des millions de dollars. C'est une perte très importante, autant financière que une perte sur la glace pour les Sénateurs d'Ottawa, là, je te le dis, tu peux pas perdre ça parce que t'as mal géré un dossier. Puis c'est ce qui est arrivé. Alors, je pense que ça a été la goutte de trop. En tout cas, bref, tout ça pour te dire, on décide de mettre un terme à ça. Steve Théon, directeur général par intérim, et là, la question est ouverte. Qui sera le prochain directeur général de cette formation-là? Il y a déjà des noms intéressants, là. On parle déjà d'un gars comme Mathieu Darche, qui est adjoint à Julien Brisebois avec le Lightning de Tampa Bay. Mathieu Darche connaît Andy Lauer. On dit qu'il a beaucoup de respect pour lui. Moi, je serais pas surpris que Darche fasse le processus. Tout le monde dit qu'il est prêt à faire le saut comme directeur général. Ce serait intéressant de voir un gars comme lui débarquer à Ottawa, amener son, si tu veux, sa couleur, amener un peu sa façon de faire, parce qu'on le sait, Lightning a été une organisation et est une organisation de première classe qui compétitionne à chaque année puis qui remporte souvent les grands honneurs, en tout cas, surtout dans les dernières années. Alors, je pense que ça peut être un candidat intéressant. Mais il y en a d'autres. On parle de Peter Chiarelli, l'ancien des Bruins de Boston, qui est dans la région d'Ottawa, bien, qui est originaire de la région d'Ottawa, qui pourrait débarquer dans la capitale nationale. Bref, ça va être dans les prochaines semaines. Mais on a un nouveau souffle chez les Sénateurs. C'est une organisation qui, avec Andy Lauer, veut montrer que cette organisation-là va être prise au sérieux, puis qu'elle est prête à faire les actions pour qu'elle soit prise au sérieux. Maintenant, faut que l'équipe performe sur la glace, Sébastien, parce que c'est décevant. Là, si on est honnête, c'est décevant depuis le début de la saison avec cette équipe-là. On s'est pas caché que l'objectif, c'est de faire les séries éliminatoires. Moi, je te le dis, DJ Smith, je dormirais pas bien si j'étais lui, parce que j'ai comme l'impression qu'il est le prochain. Surtout que tout portait à croire que Pierre Dorion était son allié numéro un. Avec le départ de Pierre Dorion, est-ce que DJ Smith pourrait perdre son poste? Tu sais, on lui a donné un vote de confiance en point de presse hier, mais moi, je te le dis, là, je serais vraiment pas surpris qu'il lui reste que quelques jours.
On risque de s'en reparler peut-être la semaine prochaine si ta prédiction est bonne.
Ben, écoute, ça se peut que je me trompe, mais j'ai comme un petit feeling, disons.
Sinon, ben, parlons du Canadien de Montréal qui est en Arizona. Tu m'as qualifié ça avant qu'on entre en onde de match piège. Pourquoi?
Ben, je trouve qu'il y a trop d'enjeux dans ce match-là. Des enjeux qui sont peut-être pas justifiés. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les Coyotes jouent du bon hockey récemment. » C'est vrai, ils sont très bien dirigés par André Tourigny. C'est une équipe, par contre, qui devrait pas être dans le portrait des séries. Plus ou moins en accord, là, je peux comprendre pourquoi les gens disent ça. C'est pas une équipe qui est bourrée de talent, mais c'est une équipe qui est jeune et qui est travaillante. Le Canadien devrait faire partie des séries. Alors, le Canadien peut pas échapper ce match-là, mais ça sera pas facile. Écoutez, là, premièrement, jouer un match sur la côte ouest américaine, c'est jamais facile pour une équipe qui arrive de l'Est. Peu importe, puis le cas contraire est vrai également là, pour les équipes qui arrivent de la côte ouest et qui viennent jouer dans l'Est. Là, c'est jamais facile en raison du décalage horaire, du changement également d'entraînement, tout ça. Ça implique beaucoup de choses, mais une game de hockey, ça joue sur la glace. Là, on va arrêter de parler de X et O, puis de l'équipe qui est la plus performante, puis l'équipe qui est supposée d'être d'insérie, puis l'autre que non. Le Lightning de Tampa Bay peut perdre contre les Coyotes. Là. Ils ont perdu cette semaine un match que personne ne s'attendait à ce qu'ils perdent. Je veux dire, un moment donné, là, mettons pas la tête du Canadien sur le bio avant un match contre les Coyotes de l'Arizona qui, au final, risque de rien dire à la fin de l'année dans le portrait des séries. Tu sais, je pense que c'est un bon match. Je pense que ça va être intéressant parce que c'est deux jeunes équipes qui ont des talents assez exceptionnels dans leur équipe. Moi, je pense à Coulet du côté des Coyotes qui va affronter Slavkovski ce soir. Ça va être la comparaison. Là. Je veux dire, ces deux gars-là ont été repêchés. En même temps, est-ce que Slavkovski est devant lui? Plusieurs disent que Coulet est devant lui. Bref, ça va être ça l'enjeu ce soir. Et c'est aussi un enjeu que je trouve qui est totalement inadéquat parce que les gars ne sont pas arrivés dans le même marché, ne sont pas arrivés dans la même équipe. C'est vraiment pas la même gestion au niveau des partisans. Là. Je veux dire, on joue dans un aréna de 5000 qui est pas tout le temps plein en Arizona. Puis du côté de Montréal, on joue dans un 24000 qui déborde tout le temps. Fait que, tu sais, je veux dire, la réalité est pas vraie, là. Donc ce soir, mesdames et messieurs là, qui vont écouter le match, là, s'il vous plaît, là, demain matin, si le Canadien s'incline, lancez pas votre chandail dans la rue, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Non, mais c'est incroyable, je te dis, Sébastien, c'est un match, pour moi, qui n'a pas de signification particulière. C'est un match qui va être excitant, là. Je veux dire, comme je le dis, c'est deux bonnes équipes qui s'affrontent. Mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde du Canadien de l'échappe ce soir? Il y a même des gens qui ont parlé de match baromètre. Là, je parle des spécialistes qui... C'est un match baromètre pour le Canadien. On va savoir si le Canadien est prêt pour les séries. Hey, on est moi, on a tourné le mois de novembre hier. C'est comme on se calme, là. Donc, en tout cas, match intéressant, on va suivre ça, puis... Je te le dis, ça pourrait être la panique générale demain en cas d'une défaite.
On verra bien. Puis sinon, ben, clin d'œil rapide, en terminant, Olivier, tu voulais nous parler là, de ce match entre les Tiger Cats et les Alouettes là, en demi-finale de l'Est dans la Ligue canadienne de football.
Oui, absolument. Ben, c'est du football de série dans la Ligue canadienne. On va suivre ça. Malheureusement, on ne pourra pas le suivre à Ottawa parce que le Rouge et Noir a été éliminé, je pense, après le match 3 de la saison régulière. Non, c'est une joke, c'est une mauvaise blague, mais ça a été assez conclu rapidement que cette équipe-là ne faisait pas les séries. Alors, on se range du côté des Alouettes. On regarde ça en fin de semaine. Moi, je pense que ça va être très, très intéressant parce que c'est deux formations qui se ressemblent. C'est deux formations qui ont quand même réussi à connaître un certain succès cette saison. C'est la bataille des revirements qui risque de jouer une partie importante dans ce match-là. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui va être capable d'en causer le plus et l'autre qui va être capable d'en causer le moins qui va le remporter. Moi, je pense que au niveau de corps arrière, ce que j'ai adoré, puis je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai adoré Cody Fajardo. Je pense qu'il est en avant de Matthew Shield. Et il y en a bien qui pensent que ce sera pas Shield qui va lancer, mais c'est lui qui prend les répétitions cette semaine. Un ancien, justement, des Alouettes. Alors moi, je serais pas surpris qu'on le voit dans la mêlée quand la demi-finale va commencer en fin de semaine. Mais ouais, ça va être un match très très intéressant. Puis chose certaine, les Alouettes sont plutôt les Tiger Cats sont à la portée des Alouettes de Montréal. Mm-hmm. C'est pas un match que les Alouettes doivent rentrer dans en se disant, écoutez, on n'est pas supposé de le gagner. Moi, je pense que les Alouettes sont prenables, sont capables de jouer ce match-là. Et ça risque d'être fort intéressant pour la suite des choses parce que dans le cas d'une victoire. Ben là, on se donne une sérieuse option pour poursuivre la conquête de la Coupe Grey que les partisans de Montréal et les partisans québécois attendent depuis longtemps. Peut-être redonner aussi un peu l'amour de la Ligue canadienne de football à certains partisans qui l'ont un peu perdu.
Bon, ben on va suivre ça, Olivier Beauregard. Un grand merci pour ton temps cet après-midi. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, merci. Bye-bye.